VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans quelques minutes, nous écouterons notre magazine L'Amérique et vous. Mais en attendant, un résumé des principales nouvelles du monde, à commencer par le Burundi, où les élections législatives et municipales se sont déroulées aujourd'hui. Un scrutin boycotté par l'opposition après plusieurs semaines de violence déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza fin avril de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Les précisions avec Georges Léonard Sagno.
Avant l'ouverture des bureaux de vote, des coups de feu ont été entendus dans la capitale Bujumbura. De nombreux bureaux de vote ont ouvert en retard. L'Union africaine a retiré ses observateurs dimanche, estimant que le scrutin ne pouvait se tenir dans des conditions de liberté et d'équité satisfaisantes. La participation, plus que le résultat, est la grande inconnue du scrutin. L'opposition boycottant l'ensemble de ses élections générales, largement condamnée par la communauté internationale. À la mi-journée, Pierre Claver Ndayi-Kairie, président d'une commission électorale accusée d'être aux ordres du pouvoir, assurait que la participation était massive à travers tout le pays. Mais aucun chiffre officiel n'était disponible et plusieurs bureaux refusaient de communiquer leur taux de participation. Cette mobilisation massive était même loin d'être évidente à Bujumbura, signale l'agence France Presse. Quelque 3,8 millions d'électeurs, selon les autorités, était appelé aux urnes pour ce scrutin proportionnel à un tour.
La présidente de la transition en République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a officiellement lancé aujourd'hui les opérations de recensement électoral dans la perspective d'une présidentielle et de législative annoncée pour le mois d'octobre. Cet enregistrement doit s'achever le 27 juillet dans un pays où les infrastructures routières sont dans un état déplorable et où des bonnes armées sévissent toujours dans certaines régions. Il doit permettre de doter les électeurs d'une carte permettant de participer à la présidentielle et aux législatives. Plusieurs membres présumés de Boko Haram sont entre les mains des autorités tchadiennes deux semaines après un double attentat sans précédent à N'Djamena. La dernière arrestation fait suite à une opération de la police tchadienne ce lundi contre des hommes du groupe islamiste nigérian opérant dans la capitale du Tchad. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été tuées dans cette opération. Au micro de Jacques Aristide, écoutez les précisions du ministre tchadien de la Justice, Mohamed Issa Halikimi.
Oui, il s'agit effectivement d'une descente de police dans une maison suspectée, abritée des terroristes et 6 terroristes qui ont fabriqué leur engin mortel. À l'arrivée des policiers, ils se sont fait exploser. Dommage, nous déplorons 5 policiers et 6 terroristes aussi. Il était au total 7. Le 7e est blessé. On lui a prodigué les soins appropriés. Il est à la main des forces de défense et de sécurité.
C'était au cours d'une opération de la police tchadienne contre des membres présumés de Boko Haram à N'Djamena.
Absolument. Il faut également se rappeler que hier dans l'après-midi, nous avons pris les coordinateurs des cellules Boko Haram qui coordonnent entre le Tchad, Cameroun, le Niger et le Nigeria. À la suite des enquêtes que nous sommes aboutis à cette concession qui nous a été orientée, il y a également des ceintures explosives et d'autres engins qui ont été découverts.
Le ministre tchadien de la Justice, Mohamed Issa Halikimi, joint à N'Djamena. La Tunisie a annoncé ce lundi de premières arrestations en lien avec l'attentat de la semaine dernière contre un hôtel en bord de mer à Sousse. Michel Joseph.
Le ministre tunisien de l'Intérieur a annoncé lundi l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de lien avec l'homme qui a tué 39 personnes vendredi dernier, en majorité des touristes britanniques. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Nous avons commencé par arrêter un premier groupe, dont le nombre est important, du réseau qui était derrière ce criminel terroriste, a dit Najim Garsali. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si le tueur a reçu un entraînement dans des camps djihadistes en Libye. M. Garsali s'exprimait lors d'un point de presse aux côtés de ses homologues français Bernard Cazeneuve, allemand Thomas de Maizière et britannique Theresa May. Il n'a pas précisé le nombre ou l'affiliation des personnes arrêtées. Les ministres allemands, français et britanniques de l'Intérieur se sont rendus ce matin dans l'hôtel où l'étudiant de 23 ans, Sefedine Rezgi, a ciblé ses victimes avant d'être abattu.
Affaire Hissène Habré au Sénégal. Plus de 4000 victimes seront parties civiles au procès de l'ex-président tchadien prévu à partir du 20 juillet à Dakar. C'est ce qu'affirment leurs avocats. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Il sera jugé par les chambres africaines extraordinaires, le tribunal spécial au Sénégal. 100 témoins sont également attendus à la barre. Les preuves qui seront présentées sont solides, surtout les documents de la police politique tchadienne qui démontrent le lien direct de supérieur à subordonné entre Habré et ce service, assurent les avocats. Le procureur général d'Égypte a été tué aujourd'hui dans un attentat. Son convoi a été attaqué au Caire, un mois après l'appel du groupe djihadiste État islamique à s'attaquer au corps judiciaire pour venger l'exécution de ses partisans. Hicham Barakat est le plus haut représentant de l'État, tué en représailles à la violente répression qui s'est abattue sur les islamistes depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en juillet 2013. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino Léon, a indiqué aujourd'hui que les délégations des parlements rivaux, qui ne sont pas parvenues à un accord dans la nuit de dimanche à lundi, seraient de retour au Maroc d'ici jeudi, affichant à nouveau son optimisme. Réunis depuis jeudi à Skhirat, nord-ouest, les délégations représentent ces deux parlements et ont tenu pour la première fois des discussions directes dimanche, mais elles ont échoué à signer un protocole d'accord pour la formation d'un gouvernement d'union.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Grèce au bout du gouffre, la Grèce le grand saut dans le vide, des titres qui ont fait la une ce matin. Devant le refus des créanciers de prolonger leur assistance, le gouvernement grec a décrété une fermeture des banques du pays et l'instauration d'un contrôle des capitaux. Athènes a aussi appelé à un référendum le week-end prochain, dont l'issue pourrait décider de son appartenance à la zone euro. Explication de Saloua Jafari.
C'est ce qu'on pourrait appeler le début de la fin. Dimanche, la Grèce a fermé ses banques pour éviter les retraits massifs. Elle a fermé sa bourse. Un signe qui ne trompe pas, Athènes pourrait bientôt se couper de l'Union monétaire européenne. Et puis, ça sera la chute libre, prédisent les économistes, avec la paralysie de l'économie. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, visiblement remonté, parle de trahison et demande aux Grecs de reconsidérer.
Je dirais aux Grecs que j'aime profondément. Il ne faut pas se suicider parce qu'on a peur de la mort.
Le gouvernement d'Alexis Tsipras a aussitôt répondu, doutant de la sincérité de Juncker. Angela Merkel tempère. Elle a affirmé que l'échec de l'euro serait celui de l'Europe et l'appelle au compromis. Mais le ras-le-bol allemand est ressenti dans sa presse. Le Süddeutsche Zeitung a titré aujourd'hui « Cette fois Berlin est vraiment en colère ». Le président Alexis a appelé un référendum le week-end prochain, un vote qui pourrait décider de l'avenir de la zone euro.
État libre associé aux États-Unis, l'île de Porto Rico de la mer des Caraïbes est aujourd'hui au bord du précipice. Impossible de repayer sa dette, chiffrée à environ 72 milliards de dollars pour une population de seulement 3 600 000 habitants. Le point avec Camille Grosdidier.
Tout comme la Grèce, Porto Rico est acculé au mur et le gouverneur du territoire crie bien haut qu'il se rapproche du défaut de paiement. Interrogé par le New York Times, il a évoqué une spirale de la mort, la dette du territoire étant impayable à son avis. Porto Rico étant rattaché aux États-Unis, le territoire ne saurait dévaluer sa monnaie, le dollar américain. Des fonds spéculatifs prêts à prendre des risques en échange de taux d'intérêt très élevés sont aujourd'hui les principaux créanciers de la dette portoricaine. Depuis plusieurs mois, ils travaillent sur un plan B pour sauver l'île, dont les coffres sont vides, le chômage y explose, la criminalité croît et plus de 4% de la population a quitté le territoire ces quatre dernières années, signale l'agence France Presse. Les agences de notation ont placé les obligations de Porto Rico dans la catégorie des « junk bonds », c'est-à-dire les obligations pourries jugées à haut risque.
Les discussions sur le programme nucléaire iranien se poursuivent au niveau des experts en attendant la reprise des échanges entre les dirigeants politiques du groupe 5+1 et l'Iran. Les deux parties ont convenu qu'elles ne pourront pas respecter la date butoir du 30 juin pour la signature d'un accord définitif. Elles ont toutefois assuré qu'il n'y aura pas un long report et qu'une entente devrait être trouvée pendant ce round des négociations à Vienne. Nouvelles du monde, Washington, chez Robin Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.